Journal de Charlotte Hydrac. Il est 11h à Paris, 9h en temps universel. Merci de votre fidélité. Toute l'information. Bonjour Charlotte Hydrac.
Bonjour, merci pour le midi. Juan Gomez, à demain. À la une de ce journal, un accord entre les États-Unis et l'Ukraine. Après un long bras de fer, ils prévoient un fonds d'investissement commun pour la reconstruction du pays. Le partenariat donne accès à Washington aux ressources naturelles ukrainiennes. Accord présenté comme une bonne nouvelle par Kiev. Plus de latitude pour les dépenses militaires. 16 pays de l'Union européenne vont réclamer une dispense des règles budgétaires. On sera en Estonie dans ce journal. Le pays veut consacrer plus de 5% de son PIB à sa défense. On sera aussi en Afrique du Sud, où le président veut rouvrir les enquêtes sur des crimes de l'apartheid. Et puis revoilà Léon Marchand, le nageur français quadruple champion olympique, se remet à l'eau aujourd'hui en Floride, aux États-Unis, avec un nouveau défi, le crawl, hors de sa zone de confort. Oui, après des négociations serrées, l'Ukraine et les États-Unis se sont donc mis d'accord pour un partenariat sur l'accès aux minerais ukrainiens. Alors concrètement, Kiev et Washington ont mis en place un fonds d'investissement qui va servir à la reconstruction de l'Ukraine. Et pour cela, les États-Unis pourront accéder, eux, aux ressources minières et énergétiques du pays. À Kiev, le gouvernement insiste, l'Ukraine n'est pas perdante, Emmanuel Chaz.
Il doit encore être ratifié par le Parlement ukrainien, mais après des mois de tractations houleuses, cet accord est présenté comme une bonne nouvelle par le gouvernement ukrainien. Le Premier ministre Denis Shmyhal se félicite d'attirer des ressources pour la reconstruction et la croissance économique du pays grâce au fonds d'investissement qu'il met en place et rassure en soulignant que l'Ukraine conserve le contrôle sur ses ressources naturelles et infrastructures et que cet accord ne sera pas un obstacle au processus d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. La ministre de l'économie et vice-première ministre Yulia Sviridenko, qui a signé cet accord à Washington, précise également que l'Ukraine financera ce fonds à hauteur de 50% et exclusivement à partir de revenus générés par de nouvelles licences d'exploitation de ses ressources et que les entreprises publiques telles qu'Energoatom ou Ukrnafta resteraient sous contrôle ukrainien. Des questions persistent sur les garanties de sécurité que l'Ukraine espérait obtenir. Aucun élément concret à ce sujet n'est inclus dans cet accord qui évoque seulement un alignement stratégique des deux pays à long terme et promet le soutien américain à la sécurité, prospérité et reconstruction de l'Ukraine, mais sans préciser de quelle façon. Emmanuel Chaz, Kiev, RFI.
Des garanties de sécurité alors que les États-Unis se désengagent en Europe et demandent aux alliés de l'OTAN de payer plus. Plusieurs pays donc investissent dans leurs armées, c'est le cas notamment de l'Estonie. Le gouvernement augmente ses dépenses pour mieux se protéger. Un plan en ce sens a été adopté pour consacrer plus de 5% du PIB à la défense dès l'an prochain. Et malgré les attaques du président américain contre l'Europe, l'Estonie et les États-Unis l'assurent, la coopération sécuritaire est au beau fixe. Exemple avec cette livraison de matériel américain hier sur une base militaire à l'ouest de Tallinn. Reportage de notre envoyé spécial Nicolas Feldman.
Les lance-roquettes sont exposées face aux caméras des modèles HIMARS tout juste livrés et achetés aux États-Unis sous Joe Biden. À la tribune, le représentant américain Matthew Wall l'assure, Donald Trump lui aussi se tient aux côtés de l'Estonie.
Cette livraison d'aujourd'hui n'est que le début. Le président Trump met tout en œuvre pour maintenir une industrie de défense dynamique aux États-Unis. Mais pour cela, il nous faut un réseau de partenaires solides, comme ici. L'Estonie prouve une nouvelle fois qu'il est un allié sérieux et que c'est un allié qui investit dans sa propre défense afin de rendre l'OTAN plus forte.
Car l'Estonie prévoit de dépenser plus 3 milliards d'euros supplémentaires ces 4 prochaines années. Anno Pefkour, ministre de la Défense.
Nous allons consacrer plus de 5% de notre PIB aux dépenses de défense. C'est désormais notre principal objectif parce que l'on a tiré les leçons de ce qui s'est passé en Ukraine. On doit le faire car la Russie est toujours très hostile et on peut aussi par la même occasion respecter nos engagements vis-à-vis de l'OTAN.
Ici, on attend beaucoup du prochain sommet de l'OTAN fin juin justement pour clarifier la relation de Donald Trump avec l'Alliance Atlantique. Nicolas Feldman, Tallinn, RFI.
Et selon l'Union européenne, 16 pays membres, dont l'Estonie justement, vont réclamer d'être temporairement dispensés des règles de stabilité budgétaire pour favoriser leurs dépenses militaires. Un millier d'écoles coraniques fermées au Cachemire pakistanais, et cela pour 10 jours, annonce en pleine tension entre l'Inde et le Pakistan, qui a dit s'attendre à une frappe indienne imminente. Le ton ne cesse de monter entre les deux voisins depuis l'attaque meurtrière au Cachemire indien la semaine dernière. New Delhi accuse Islamabad, qui dément. Le chef de la diplomatie américaine a appelé le Pakistan à condamner clairement cet attentat et à coopérer à l'enquête. Mais Islamabad accuse l'Inde de provocation et de viser l'escalade. Les tensions confessionnelles en Syrie après des violences. Ces derniers jours, l'un des principaux chefs religieux, Druze, vient de dénoncer une campagne génocidaire, je cite, contre sa communauté. Hier, au moins 15 combattants druzes ont été tués dans la région de Damas, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, pris pour cible dans une embuscade par des groupes liés au pouvoir. Le vent est tombé à Jérusalem. Bonne nouvelle pour les pompiers israéliens qui luttent toujours contre des incendies autour de la ville. Plusieurs feux de forêt qui se sont propagés très rapidement hier. Plusieurs milliers de personnes ont dû être évacuées. L'armée a été mobilisée. Et là, ces dernières heures, les routes ont été rouvertes à la circulation.
RFI.
Au Kenya, la police envisage la piste d'une attaque ciblée et préméditée après le meurtre d'un député hier soir, tué par balle en pleine rue dans la capitale, Nairobi. Charles Ongondo Were, membre du parti de Raila Odinga, l'opposant historique donc qui a noué une alliance avec le président Ruto ces derniers mois. Aucune indication officielle sur le mobile de ce meurtre pour l'instant. En Afrique du Sud, une commission pour enquêter sur le manque de justice autour des crimes qui remontent à l'apartheid. Elle a été annoncée, cette commission, par le président Ramaphosa. À la fin de l'apartheid, en 1994, une commission, Vérité et Réconciliation, avait permis d'apaiser le pays. Elle avait aussi recommandé des poursuites dans des centaines d'affaires, mais très peu, en fait, avait abouti, Claire Bargelès.
En 1998, la commission Vérité et Réconciliation remettait ses conclusions au gouvernement sud-africain et recommandait des poursuites pour près de 300 cas. Mais 27 ans plus tard, seule une poignée de dossiers ont conduit à des procès. Beaucoup de suspects ne sont désormais plus en vie et des familles de victimes sont toujours en quête de paix et de vérité. C'est pourquoi plusieurs de ces familles ont décidé de porter l'affaire devant les tribunaux en début d'année afin de réclamer des explications et des dommages et intérêts. Cyril Ramaphosa les a donc entendus et au travers de cette future commission d'enquête, il souhaite que la lumière soit faite sur les soupçons d'interférence politique. Plusieurs voix, et notamment celle d'un ancien cadre du parquet, ont dénoncé par le passé des blocages volontaire sous la présidence de Thabo Mbeki afin que des dossiers soient enterrés. Le gouvernement doit désormais annoncer dans quel délai cette commission sera mise en place et qui sera nommé à sa tête. Claire Bargelès, Johannesburg, RFI.
En cette journée internationale des travailleuses et des travailleurs, des rassemblements, plus de 250 au total, se préparent un petit peu partout en France. Les organisations syndicales organisent des défilés en ordre dispersé avec plusieurs mots d'ordre pour les salaires, pour les retraites ou encore la paix dans le monde. C'est le Français qui a triomphé lors des JO de Paris 2024. Le revoilà dans les bassins pour une nouvelle saison, nouvelle motivation et nouveaux objectifs. Léon Marchand se remet à l'eau ce jeudi aux États-Unis où il s'entraîne durant la saison pour une compétition de reprise. L'occasion pour lui de s'aligner sur des épreuves de nage libre, donc en Floride, où il a très peu d'expérience, mais une grosse envie de briller, Christophe Diremzi.
Fort Lauderdale, 700 inscrits, pas mal de vedettes internationales et parmi elles, un Léon Marchand en quête de repères et de nouveaux défis. Désormais résident au Texas, mais toujours sous la conduite de Bob Bowman, le Toulousain va enchaîner 5 courses en 3 jours. S'il maîtrise parfaitement 3 d'entre elles, 200 mètres brasse, 200 et 400 mètres 4 nages, avec l'or à chaque fois au JO, il va sortir de sa zone de confort sur 200 et 400 mètres nage libre, où ses meilleurs chronos sont loin, très loin des temps de référence mondiaux. Mais c'est le but, innover, s'adapter aux contraintes du crawl à l'aube d'un nouveau et long cycle jusqu'aux Jeux de Los Angeles. Léon Marchand avait besoin de ce renouvellement après son été 2024 aussi incroyable sportivement que mentalement épuisant. Par la suite, ses états étape de Coupe du Monde en Asie en octobre l'avait vidé de ses dernières doses d'énergie. Pas de championnat du monde en petit bassin en décembre. Le mois suivant, il s'envolait pour un trimestre en Australie. Une coupure active, une expérience avec Dean Boxall, entraîneur réputé de nage libre, pour commencer à mettre l'accent sur ses courses sur lesquelles il se testera peut-être lors des championnats de France en juin et des mondiaux de Singapour fin juillet.
Et au programme pour Léon Marchand, pour commencer, un 400 mètres nage libre, ce sera à partir de 17h53, heure française. Pour l'heure, on vous retrouve, Caroline Paré, pour Priorité Santé.
Un grand merci à vous, Charlotte Hydrac.